Vous êtes toujours avec nous sur Bac FM 106.1. C'est l'heure du CDLP, l'émission où je parle d'actualité dans notre beau département nivernais. Pour la seconde fois cette semaine, CDLP spécial. Demain, nous sommes le 28 mars, journée mondiale de l'endométriose, maladie gynécologique chronique où le tissu endométrial se développe en dehors de l'utérus, provoquant douleurs, inflammations et parfois infertilité. Bonjour Philippe Cadel.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur gynécologie médicale, chirurgicale et oncologique. Ça fait beaucoup de mots compliqués. Vous êtes responsable également du service au CHU de Dijon. Merci d'avoir accepté mon invitation.
À l'hôpital de Dijon et aussi à l'hôpital de Nevers.
Et aussi à l'hôpital de Nevers, ça tombe bien, c'est là que nous sommes.
Voilà.
Alors, pour commencer simplement, l'endométriose, c'est quoi en fait ?
Ben, l'endométriose, c'est simple et très complexe à la fois. C'est des choses simples parce que, dans le principe, c'est le tissu endométrial. Alors, pour être très simple, le tissu endométrial, c'est le tissu qui donne les règles et qui, chaque mois, chez une femme qui a ses cycles, coule, et ce qu'on appelle le sang menstruel. Et ce tissu, il était préparé pour recevoir une grossesse lorsqu'il y a fécondation. Et ben, ce tissu, dans l'endométriose, il a des anomalies qui lui permettent de se développer en dehors de sa place habituelle, sa place anatomique, qui est la cavité utérine. Et donc, ça peut être de façon anatomique, soit en dehors de la cavité, mais en restant dans l'utérus, c'est la première forme. Après, ça peut aller au niveau de la cavité péritonéale. Alors, la cavité péritonéale, c'est cet espace dans lequel tous les organes de l'abdomen sont situés. Donc, il y a les intestins, la vessie, le petit et gros intestin, et chez la femme, les organes gynécologiques, à savoir les ovaires, les trompes et l'utérus. Et donc, cet tissu endométrial va pouvoir se déposer, va pouvoir se développer dans cette cavité. Donc, en général, c'est juste en arrière dans l'utérus parce que c'est la zone la plus basse lorsqu'une femme est debout dans cette cavité. Et puis après, ça peut être sur les trompes, sur les ovaires, sur les intestins, sur la vessie. Et à l'endroit où il se situe, il va pouvoir suivre exactement le même cycle menstruel, c'est-à-dire un moment, il va se développer et à un moment, il va saigner de la même façon qu'il y a le tissu qui est à sa place va saigner aussi. Mais ce serment ne peut pas sortir et l'organisme va créer des réactions pour se débarrasser de ces tissus et va faire de l'inflammation, des nodules, de la douleur et tout le cortège de problèmes que va engendrer ce tissu qui n'est pas à sa place. On dit un tissu ectopique, qui n'est pas à sa place.
On parle d'une femme sur combien ?
Une femme sur 10, c'est très fréquent. Alors, ce n'est pas plus fréquent maintenant, mais maintenant on en parle. Avant, c'était une sorte de fatalité. On disait, les règles sont douloureuses, c'est comme ça, c'est la situation de femme, et il faut souffrir pour ça. Et on ne s'en occupait pas. Mais maintenant qu'on s'en occupe, on arrête un peu de colporter ces notions que des règles, ça doit être douloureux. Des règles, ça peut être désagréable. Des règles, ça peut ne pas tomber au bon moment. Mais ça ne doit pas être douloureux et faire vivre un enfer à certaines femmes avec des douleurs très importantes, ne permettant pas d'aller à l'école, donc absentéisme scolaire, ne permettant pas d'aller au travail, absentéisme social, ne permettant pas éventuellement d'avoir des rapports sexuels, donc problématique dans l'intime. Donc tout ça est de cette notion de douleur chronique qui elle-même peut aboutir à des syndromes dans lequel la douleur elle-même devient un problème, ça s'appelle des situations d'hypersensibilisation à la douleur, et donc c'est une sorte d'engrenage qui se met en place pour rendre infernale la vie de certaines femmes.
Vous venez de citer l'exemple scolaire, ça peut toucher les femmes et voire les filles, dans ce cas-là, à partir de quel âge ?
Il n'y a pas un âge, c'est à partir, il y a des femmes, alors c'est dès les premières règles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut savoir ne pas négliger une jeune femme qui a ses règles et qui se plaint de douleurs trop invalidantes.
Quels sont les symptômes justement qui doivent alerter ?
La première chose, c'est la douleur. D'accord ? La douleur pendant les règles. Après, c'est des douleurs de régionales, soit en allant à la selle, soit au niveau vésical. Plus rarement au niveau urinaire. Et après, il y a les douleurs pendant les rapports, avec des douleurs que la femme ressent à l'intérieur même de son ventre lors des rapports sexuels, pouvant aboutir à une impossibilité d'avoir des rapports sexuels satisfaisants ou des rapports sexuels tout court. Après, il y a des nœuds, ce qu'on appelle nous les nodules, c'est-à-dire apparition d'une boule que le gynécologue va pouvoir palper, ou alors à ce moment-là, le médecin à la palpation abdominale va pouvoir éventuellement repérer des nodules plus rarement au niveau de l'ombilic. Voilà, c'est toute cette symptomatologie, tous ces signes liés à la présence de ce tissu qui n'est pas à sa place et qui se développe à une place qui n'est pas la sienne.
C'est difficile à diagnostiquer en 2026 ?
Oui, c'est difficile à diagnostiquer parce qu'il y a un phénomène qui est un peu particulier, c'est qu'il n'y a pas de correspondance entre les symptômes. Alors les symptômes, c'est-à-dire les signes, les problèmes que peut ressentir une personne et la situation anatomique. À savoir qu'on peut avoir des endométrioses qui sont très complexes avec des nodules, des kystes au niveau de l'ovaire et une femme qui ne se plaint pas trop, qui n'est pas trop impactée par ces lésions, et à l'inverse, des femmes pour lesquelles il n'y a aucun signe, même lorsqu'on fait des examens très performants comme des échographies pelviennes, qui est l'examen de premier recours, de première intention, ou alors des IRM, qui est l'examen de deuxième intention, tous ces examens peuvent être complètement normaux, l'examen clinique complètement normal, pourtant la femme est extrêmement douloureuse, c'est une situation de règles très invalidante ou de douleurs pelviennes très invalidantes, sans aucun signe. Et à ce moment-là, le diagnostic peut être difficile. Et maintenant, on a une nouvelle arme de diagnostic qui s'appelle le test salivaire et qui, je le rappelle, n'a d'intérêt uniquement quand tous les autres examens ne permettent pas de retenir le diagnostic d'endométriose. Si un examen clinique ou une radio, une échographie met en évidence une endométriose, le test salivaire n'a plus aucun intérêt.
Est-ce qu'on a encore tendance, nous les hommes, nous la société, à banaliser l'endométriose ?
Alors, pas tellement à banaliser l'endométriose, mais à banaliser les douleurs liées aux menstruations. Et donc ça a été banalisé, on va dire, depuis toujours. Hein. Vous avez les douleurs d'endométriose, on va dire, on remonte à Hippocrate qui en parlait déjà. Alors, il ne parlait pas d'endométriose, il parlait de douleurs de règles, des menstruations douloureuses, et il donnait des conseils pour ces femmes. Donc, probablement que l'endométriose existait déjà à cette époque-là. Hein. Mais maintenant, elle a un nom, elle a une démarche diagnostique. Les médecins sont de plus en plus au courant. Hein. Alors, quand je dis de plus en plus, comme c'est les connaissances sur cette maladie progressent, mais restent encore très très incertaines, il y a beaucoup de mystères, de points d'interrogation par rapport à cette pathologie. Là actuellement, on se pose encore la question de savoir exactement pourquoi elle se développe. Donc vous voyez, on a un grand manque de connaissances sur cette pathologie. Mais c'est pour ça qu'il est très important d'en parler pour qu'on sache que ça existe, parce qu'il y a encore trop de femmes qui ont des situations de douleur qui évoquent une endométriose, qui laissent penser que c'est une endométriose et qui ne se plaignent pas parce que l'entourage familial minimise. Et actuellement, l'un des premiers objectifs que le monde médical se donne, c'est diagnostiquer le plus rapidement possible, c'est de diminuer. Et quand on dit diminuer, ce n'est pas de quelques semaines. Hein. On parle d'années, de réduire en nombre d'années le moment où les symptômes, les signes apparaissent et le moment où on dit c'est une endométriose. Et donc là, on est à plusieurs années et le monde médical se mobilise pour réduire ce temps au diagnostic pour pouvoir mettre en place les traitements le plus tôt possible.
Alors, on a parlé du diagnostic. Moi, j'aimerais m'intéresser quelques secondes au remède. Question un peu bête, mais est-ce que ça se soigne, l'endométriose ?
Alors, ça se soigne, mais on peut dire qu'actuellement, ça ne se guérit pas facilement. Là, pour moi, la guérison, ça doit d'avoir un médicament, on le donne, et puis l'endométriose disparaît, on n'en parle plus. Ça n'existe pas. Alors, il y a des formes d'endométriose qui justifient d'un traitement chirurgical, qui apportent justement cette guérison, à savoir qu'on débarrasse de la lésion, et puis par la suite, la patiente ne se plaint plus de ses symptômes. Alors, on est revenu un peu sur cette agressivité chirurgicale. On faisait des chirurgies lourdes. Maintenant, on limite de plus en plus les traitements chirurgicaux radicaux, ce qu'on appelle, pour des chirurgies au coup par coup, pour limiter, traiter des symptômes bien précis. Le traitement actuellement est principalement fondé sur de la médecine, des traitements médicaux dont l'objectif est de freiner, d'arrêter l'évolution. Et le premier principe, c'est de pouvoir arrêter le saignement de ce tissu. Quand on arrête son saignement, son développement, on stabilise la maladie, on a pour objectif de réduire les éléments inflammatoires pour calmer les douleurs. Donc c'est là maintenant, est-ce que ça se traite? Oui. Est-ce que ça se soigne dans un objectif de guérison? Parfois. Mais là maintenant, on est vraiment dans un objectif de rendre la vie normale, normaliser la vie de ces femmes qui sont atteintes d'endométriose par un traitement qui va tout freiner, tout bloquer.
Vous exercez à Nevers, vous connaissez un petit peu le sujet, c'est parfois difficile de trouver des spécialistes. Est-ce que dans des départements ruraux comme la Nièvre, c'est un des enjeux importants?
C'est un enjeu important, c'est pour ça que je me déplace, c'est pour ça que je viens et que un bon nombre des membres de mon équipe de Dijon vont à Nevers, et que un des objectifs, lorsqu'on a stabilisé notre équipe médicale, c'est de pouvoir sur place avoir ce qu'on appelle une prise en charge de deuxième niveau. Le réseau, dans le plan endométriose qui a été mis en place en 2000, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans maintenant, sous l'impulsion du président de la République, l'objectif, c'est de mettre en place 3 niveaux de prise en charge. Un premier niveau qui serait le médecin traitant, c'est-à-dire le premier relais médical pour toutes les pathologies, que ces médecins aient déjà des outils permettant d'orienter et de traiter les premiers cas, à savoir une patiente qui vient pour des douleurs pelviennes, que le médecin soit alerté sur cette notion d'endométriose et que se dise, bon, je vais chercher à savoir est-ce que c'est de l'endométriose et éventuellement de donner un premier traitement, ce qu'on appelle les traitements de premier niveau. Si le médecin juge qu'il n'a pas les compétences, et c'est tout à fait normal, un médecin généraliste ne peut pas être compétent, performant et spécialiste dans toutes les pathologies, et donc d'orienter vers un niveau 2 les gynécologues, les centres, et c'est pour cette raison que le centre hospitalier de Nevers peut être considéré, et nous tendons à cela, comme un niveau 2 dans le réseau de prise en charge de l'endométriose, à ce moment-là pour pouvoir faire les examens complémentaires et les traitements d'une bonne partie des patientes. Et si au sein de ces patientes, il y a des cas plus complexes, à ce moment-là, de l'orienter vers le niveau 3 en Bourgogne, qui est représenté par le CHU de Dijon et pour la Franche-Comté par le CHU de Besançon.
Eh ben merci beaucoup, Philippe
Voilà.
Cadal, d'avoir
Et
pris le
donc,
temps.
il y a une association aussi le réseau Bourgogne-Franche-Comté de prise en charge de l'endométriose qui s'appelle EndoBFC, sur lequel il y a un site internet sur lequel les usagers, le public, mais aussi les professionnels peuvent aller chercher des informations, peuvent aller voir les manifestations qui sont organisées sous l'égide de EndoBFC afin de faire la promotion de l'endométriose, de la connaissance de l'endométriose, de la lutte contre l'endométriose dans la population grand public et les professionnels de premier, deuxième et troisième recours.
Merci beaucoup, Philippe Cadel, d'avoir pris un peu de temps pour répondre à mes questions.
Avec
Juste,
plaisir.
je voulais terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer aux auditrices ou aux auditeurs qui nous écoutent, peut-être sur ce sujet très important?
Ce message très important, c'est n'attendez pas, si vous avez des douleurs pelviennes, si vous avez une symptomatologie globalement de plus de 3 mois, il faut consulter je dirais que les situations les plus problématiques pour moi et qui sont un petit peu difficiles pour tout praticien, c'est quand une patiente a une symptomatologie, excusez-moi d'utiliser ce terme, c'est un terme médical, c'est des troubles, des plaintes, des règles douloureuses, des douleurs pelviennes, des douleurs pendant les rapports, d'aller consulter, de ne pas attendre. Une jeune femme une jeune fille qui se plaint de douleurs pelviennes qui l'empêchent de dormir, qui la réveille, qui des douleurs de règles qui l'empêchent d'aller sereinement en milieu scolaire, de consulter.
Eh ben merci encore, Philippe Cadel.
Je vous en remercie. Merci à vous de relayer nos messages et d'informer le public, quel que soit son âge, sur cette pathologie.
Et c'est important, effectivement, nous sommes en plein dans le mois endométriose. Et demain, je rappelle, le 28 mars, journée mondiale de l'endométriose. Cette émission est maintenant terminée. C'est le retour de la musique rock et metal sur Bac FM. C'est parti.